From the conference center at Temple
Square. Ici le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City. Vous allez assister à la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle mormon.
This broadcast is
Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Président de l'Église, dirigera cette session.
Nous
souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous saluons tous ceux d'entre vous qui suivent cette réunion à la radio, à la télévision, par Internet ou transmission satellite. Nous remercions les propriétaires et les exploitants des réseaux de diffusion qui transmettent cette conférence. Nous saluons ce matin les personnalités du gouvernement, du monde de l'enseignement et les édiles ici présents. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle sous la direction de Craig Jessup et de Mark Wilberg avec Clay Christensen et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant vers Sion, cité promise, et interprétera maintenant « Ô toi, bon aimable Père ». Ensuite, frère Rolf Kerr, membre émérite des 70, fera la prière d'ouverture.
Our Father in heaven,
notre Père qui es aux cieux, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Nous te remercions pour la vie et le sacrifice de ton Fils, notre Sauveur et Rédempteur. Nous te remercions pour le rétablissement de l'Évangile dans ces derniers jours, pour sa signification dans nos vies. Nous te remercions pour la vie, pour les prophètes vivants qui sont prophètes, voyants et révélateurs. Nous sommes profondément reconnaissants pour la vie de Président Hinckley qui a été prolongée et nous prions que sa vie continuera à être poursuivie sur cette terre pour que son intelligence puisse être vivifiée. Nous prions aussi pour les membres de l'Église dans le monde entier, que nous puissions tous être vaillants dans notre témoignage de Jésus. Nous prions aussi pour les endroits où les conflits existent sur la terre et demandons à ce que tes bénédictions soient sur ceux qui sont en position de faire une différence, que leur cœur soit adouci et que la paix soit rétablie. Nous te demandons une bénédiction toute particulière pour ceux qui sont dans les forces armées, pour les antagonistes, pour que le message de cette conférence soit compris et qu'il y aura une acceptation et de la compréhension. Nous te prions particulièrement, Père, pour ceux qui sont sincères dans leur cœur, qu'ils reçoivent un témoignage par ton esprit et qu'ils viennent à comprendre l'Évangile rétabli de ton Fils. Nous te prions maintenant pour que toute cette conférence et session soient bénies, que nous soyons tous renforcés au nom de Jésus-Christ. Amen.
Will always be their friend.
The choir just sang a child. Le chœur vient de chanter la prière d'un enfant. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Henry Beiring, récemment soutenu comme deuxième conseiller, nouvellement soutenu dans la première présidence. Après son discours, nous entendrons Quentin L. Cook, soutenu hier matin comme membre du Collège des douze apôtres. Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Claudio R. M. Costa, de la présidence des 70, puis Judy B. Beck, présidente générale de la Société de secours. Après Sir Beck, le chœur et l'assemblée chanteront « Je suis enfant de Dieu ». Christopher Golden, fils des 70, nous adressera ensuite la parole, puis nous entendrons David A. Bednar, du Collège des douze apôtres.
J'étais reconnaissant d'entendre le chœur lors de la diffusion ce matin qui parlait du Sauveur et reconnaissant de voir que l'une chanson qu'ils ont chantée portait sur le Sauveur et que ses paroles étaient avait été écrite par James Faust ce matin assis à côté de frère. J'ai demandé comment monter d'enfant. Il a dit quand frère Faust est assis là, c'est toujours la question qu'il posait. Je n'en suis pas étonné. Parce que le président Faust était toujours un exemple parfait de ce que le Sauveur a décrit et qui a été dit aujourd'hui dans la parole sur les ondes. Quand j'étais petit, je voulais être le président Faust. Quand nos enfants étaient tout petits, j'ai commencé à noter les événements quotidiens. Je vais vous dire comment j'ai débuté. Un soir, je revenais tard d'une tâche de l'église. La nuit était tombée. Mon beau-père, qui habitait près de chez nous, m'a surpris pendant que je me dirigeais vers la porte de la maison. Il portait des tuyaux sur l'épaule, marchait très vite et était en tenue de travail. Je savais qu'il était en train de construire un dispositif pour pomper jusqu'à notre terrain l'eau d'un cours d'eau en contrebas. Il a souri, m'a dit quelques mots gentils, puis s'est hâté dans l'obscurité pour poursuivre son travail. J'ai fait quelques pas vers la maison, pensant qu'il faisait pour nous, et comme j'arrivais à la porte, j'ai entendu intérieurement les mots suivants. Ce n'est pas pour toi que je te donne cette expérience. Note-les. Je suis entré. Bien que fatigué, je ne suis pas couché. J'ai sorti une feuille de papier, j'ai commencé à écrire. En le faisant, j'ai compris le message intérieur que j'avais reçu. J'étais censé écrire pour que mes enfants lisent plus tard comment j'avais vu la main de Dieu bénir notre famille. Mon beau-père n'était pas obligé de faire ce qu'il faisait pour nous. Il aurait pu demander à quelqu'un d'autre de le faire ou ne pas le faire du tout. Mais nous aurons des services à nous, sa famille, qu'en font toujours les disciples par alliance de Jésus-Christ. Je savais que c'était vrai. Je l'ai donc écrit pour que mes enfants puissent avoir ce souvenir un jour, quand ils en auraient besoin. Chaque jour, pendant des années, j'ai écrit quelques lignes. Je n'ai jamais sauté un jour, quelle que soit ma fatigue ou l'heure matinale à laquelle je devais me lever le lendemain. Avant de pouvoir écrire, je méditais sur la question suivante. Aujourd'hui, ai-je vu la main de Dieu tendue pour nous toucher, nous, nos enfants ou notre famille? Tandis que je réfléchissais à cette pensée, quelque chose commençait à se produire. En pensant à la journée, je voyais la preuve de ce que Dieu avait fait pour l'un de nous, que je n'avais pas reconnu dans les moments affairés de la journée. Quand cela arrivait, et c'était fréquent, je comprenais que le fait que j'essaie de me souvenir avait permis à Dieu de me montrer ce qu'il avait fait. J'ai commencé à ressentir plus que de la reconnaissance. Mon témoignage s'est développé. Je suis devenu plus certain que notre Père Céleste entend nos prières et y répond. J'ai ressenti davantage de gratitude pour la douceur et le raffinement qui m'ont été donnés du fait du sacrifice expiatoire du Sauveur. Et j'ai eu plus confiance que le Saint-Esprit peut nous rappeler toutes choses, même celles que nous n'avons pas remarquées, ou auxquelles nous n'avons pas prêté attention quand elles survenaient. Les années ont passé, mes garçons sont devenus des hommes. De temps en temps, l'un d'eux me surprend en disant, « Papa, dans mon exemplaire du journal, j'ai lu qu'un jour, puis il me raconte comment sa lecture de ce qui était arrivé il y a longtemps l'a aidé à remarquer quelque chose que Dieu a fait dans sa journée. Je veux par là vous exhorter à trouver des moyens de prendre conscience de la bonté de Dieu et de vous la rappeler. Cela édifiera notre témoignage. Peut-être ne tenez-vous pas de journal. Peut-être ne parlez-vous pas de votre journal avec les personnes que vous aimez et que vous servez. Mais vous et eux serez bénis. Quand vous vous rappellerez ce que le Seigneur a fait, vous vous rappelez peut-être le chant que vous chantez parfois, « Compte les bienfaits de chaque jour et voilà chacun de Dieu l'amour. Compte les biens, ils sont si nombreux. » Ce ne sera pas facile de se rappeler. Comme nous vivons avec un voile sur les yeux, nous ne pouvons pas nous rappeler ce que c'était d'être avec notre Père Céleste et avec son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, de la condition prémortelle. Avec nos yeux physiques ou avec la raison seule, nous ne voyons pas non plus la main de Dieu dans notre vie. Le fait de le voir nous apporte le Saint-Esprit. Mais il n'est pas facile d'être digne de la compagnie du Saint-Esprit dans un monde méchant. Voilà pourquoi les enfants de Dieu ont si continuellement oublié leur Père Céleste depuis que le monde est monde. Pensez à l'époque de Moïse, où Dieu a fourni la manne et dirigé et protégé ses enfants de manière miraculeuse et visible. Pourtant, le prophète avertit le peuple qui avait eu une telle bénédiction, comme les prophètes ont toujours fait et feront toujours. Prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et que ne sortent de ton cœur. Les gens bénis abondamment ont toujours eu le plus de difficulté à se souvenir. Ceux qui sont fidèles à Dieu sont protégés et prospèrent. Cela résulte de servir Dieu et de respecter ses commandements. Mais ces bénédictions s'accompagnent de la tentation d'oublier leur origine. Il est facile de commencer à penser que les bénédictions n'ont pas été accordées par un Dieu plein d'amour dont nous dépendons. Mais quels sont le résultat de nos pouvoirs? Les prophètes ont répété sans cesse la lamentation suivante. Et ainsi, nous pouvons voir combien est faux et inconstant le cœur des enfants des hommes. Oui, nous pouvons voir que le Seigneur, dans sa grande et infinie bonté, bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Oui, nous pouvons voir qu'au moment même où il fait prospérer son peuple, oui, dans l'accroissement de ses champs, de ses troupeaux de gros et de petits bétails, et dans l'or et dans l'argent, et dans toutes sortes de choses précieuses, de toute espèce et de tout art, lui épargnant la vie et le délivrant des mains de ses ennemis, adoucissant le cœur de ses ennemis, afin qu'il ne lui déclare pas la guerre. Oui, en bref, faisant tout pour le bien-être et le bonheur de son peuple. Oui, c'est à ce moment-là qu'il s'endurcit le cœur, et oublie le Seigneur son Dieu, et foule aux pieds le Saint. Oui, et c'est à cause de son aisance et de son extrême prospérité. Et le prophète ajoute, « Oui, comme ils sont prompts à s'exalter dans l'orgueil. Oui, comme ils sont prompts à se vanter et à se livrer à toutes sortes d'iniquités. Et comme ils sont lents à se souvenir du Seigneur, leur Dieu, et à prêter l'oreille à sa recommandation. Oui, comme ils sont lents à marcher dans les sentiers de la sagesse. » Malheureusement, la prospérité n'est pas la seule raison qui amène les gens à oublier Dieu. Il peut aussi être difficile de se souvenir de lui quand notre vie va mal. Quand nous sommes en proie à la misère noire, comme beaucoup de gens, quand nos ennemis l'emportent sur nous, en que nous ne guérissons pas d'une maladie, l'ennemi de notre âme peut envoyer ce mauvais message qu'il n'y a pas de Dieu, ou que s'il existe, il ne se soucie pas de nous. Il peut alors être difficile au Saint-Esprit de nous rappeler les bénédictions de notre vie que le Seigneur nous a accordées depuis notre prime enfance et au milieu de notre détresse. Il y a un remède simple à la maladie terrible qui consiste à oublier Dieu, ses bénédictions et les messages qu'il nous adresse. Jésus-Christ l'a promis à ses disciples quand il était sur le point d'être crucifié, ressuscité et de l'être enlevé par son ascension glorieuse vers son Père. Ceux qui s'inquiétaient de savoir comment ils pourraient supporter le temps où Jésus-Christ ne serait plus avec eux. Voici la promesse. Elle s'est accomplie pour eux à leur époque. Elle peut s'accomplir pour nous tous aujourd'hui. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La solution pour se rappeler ce qui apporte et entretient le témoignage est de recevoir la compagnie du Saint-Esprit. C'est lui qui nous aide à voir ce que Dieu a fait pour nous. C'est le Saint-Esprit qui peut aider les personnes que nous servons à voir ce que Dieu a fait pour elles. Notre Père Céleste nous a donné un moyen simple de recevoir le Saint-Esprit, pas seulement une fois, mais continuellement, dans l'agitation de notre vie quotidienne. Ce moyen est répété dans la prière de Sainte-Cène. Nous promettons de toujours nous souvenir du Sauveur. Nous promettons de prendre sur nous son nom. Nous promettons de garder ses commandements. Et il nous est promis que nous aurons son esprit avec nous. Ces promesses se réalisent ensemble, merveilleusement bien, pour fortifier notre témoignage et avec le temps, par l'expiation, pour changer notre nature, si nous respectons notre part de la promesse. C'est le Saint-Esprit qui témoigne que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé d'un Père céleste qui nous aime et veut que nous ayons la vie éternelle avec lui, en famille. Avec ne serait-ce que le commandement de ce témoignage, nous avons le désir de le servir et de respecter ses commandements. Quand nous persévérons dans cette voie, nous recevons les dons du Saint-Esprit pour nous donner du pouvoir dans notre service. Nous voyons alors plus clairement la main de Dieu, si clairement que, par la suite, non seulement nous nous souvenons de lui, mais que nous l'aimons, et par le pouvoir d'expiation, finissons par devenir plus semblables à lui. Vous demanderez peut-être, mais comment cela commence-t-il chez quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu et affirme n'avoir eu absolument aucune expérience spirituelle? Tout le monde a eu des expériences spirituelles qu'il n'a peut-être pas reconnues. Quiconque arrive sur terre reçoit l'Esprit du Christ. La manière dont opère cet Esprit est décrite dans le livre de Moroni. Car voici, l'Esprit du Christ est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal. C'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le nom du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite, que c'est de Dieu. Mais tout ce qui persuade les hommes de faire le mal, de ne pas croire au Christ, et de le nier, et de ne pas servir Dieu, alors vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est du diable, car c'est de cette manière que le diable opère, car il ne persuade aucun homme de faire le bien, non pas un seul, ni ses anges non plus, ni ceux qui se soumettent à lui. C'est pourquoi je vous supplie, frères, de rechercher diligemment dans la lumière du Christ, afin de discerner le bien du mal. Et si vous vous saisissez de toute bonne chose, et ne la condamnez pas, vous serez certainement enfant du Christ. Par conséquent, avant même de recevoir le droit au don du Saint-Esprit en se faisant confirmer membre de l'Église, et même avant la confirmation de la vérité par le Saint-Esprit et avant le baptême, les gens ont des expériences spirituelles. Depuis leur enfance, l'Esprit du Christ les a exhortés à faire le bien, et les a mis en garde contre le mal. Ils se souviennent de ces expériences, même s'ils ne savent pas encore quelle en est la source. Ce souvenir leur reviendra lorsqu'ils écouteront la parole de Dieu de la part des missionnaires. Ils se souviendront de la joie ou du chagrin qu'ils ont ressenti quand on leur a enseigné les vérités de l'Évangile. Et ce souvenir adoucira leur cœur afin de permettre au Saint-Esprit de leur rendre témoignage. Cela les amènera à suivre les commandements et à vouloir prendre sur eux le nom du Sauveur. Et quand ils le feront, dans les eaux du baptême, quand ils entendront les mots « Recevez Saint-Esprit de la bouche d'un serviteur de Dieu autorisé », le pouvoir de toujours se souvenir de Dieu augmentera. Je vous témoigne que la chaleur que vous avez ressentie quand vous avez écouté la vérité exprimée ici dans cette conférence vient du Saint-Esprit. Le Sauveur qui a promis que le Saint-Esprit viendrait est le Fils bien-aimé et glorifié de notre Père Céleste. Ce soir et demain soir, vous pouvez prier et méditer en posant la question suivante. Dieu a-t-il envoyé un message qui m'était destiné? Est-ce que j'ai vu sa main dans ma vie et dans la vie de mes enfants? C'est ce que je ferai. Et alors je trouverai le moyen de préserver ce souvenir pour un jour où moi et mes êtres chers, nous aurons besoin de nous rappeler combien Dieu nous aime et combien nous avons besoin de lui. Je témoigne qu'il nous aime et nous bénit plus que la plupart d'entre nous n'en sont conscients. Je sais que c'est vrai et cela me réjouit de me souvenir de lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Dear brothers and sisters,
chers frères et sœurs, je me joins à vous pour exprimer mon amour et mon soutien au président Eyring et à sa famille. Le président Hinckley m'a lancé cet appel à servir au Collège des Douze tard jeudi soir. Il m'est absolument impossible d'exprimer les sentiments variés que j'éprouve depuis. Il y a eu des nuits blanches et beaucoup de prières. Je suis néanmoins encouragé par le fait que je sais que le président Hinckley est le prophète et que les membres de l'Église prieront pour moi et pour ma famille. Ce serait un euphémisme que de dire que je me sens profondément incompétent. Quand j'ai été appelé comme autorité générale en avril 1996, je ne me sentais pas non plus à la hauteur de l'appel. Frère Maxwell m'a alors rassuré en me disant que la qualification la plus importante pour tous ceux qui servent dans le royaume est de pouvoir rendre témoignage sans difficulté de la divinité du Sauveur. J'ai alors été enveloppé d'une paix qui m'est restée parce que j'aime le Sauveur et que j'ai vécu des expériences spirituelles qui me permettent de témoigner de lui. Je me réjouis de l'occasion qui m'est donnée de témoigner de Jésus-Christ dans le monde entier, malgré mes faiblesses. Au verset 5 et 6 de Doctrine et Alliance 68, on lit « Voici, telle est la promesse que le Seigneur vous fait, ô mes serviteurs. C'est pourquoi prenez courage et ne craignez pas, car moi, le Seigneur, je suis avec vous et je me tiendrai à vos côtés. Et vous rendrez témoignage de moi, Jésus-Christ. Vous rendrez témoignage que je suis le Fils du Dieu vivant, que j'étais, que je suis et que je vais venir. » Je demande que le Saint-Esprit m'accompagne tandis que je m'adresse à vous en ce dimanche matin. L'impression qui m'habite à la réception de cet appel est que nous devons vivre par la foi et non dans la crainte. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul fait référence à la foi de la grand-mère de Timothée, Loïs, et de sa mère, Eunice. Il écrit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. En ce qui me concerne, je rends respectueusement hommage à mes ancêtres qui sont maintenant de l'autre côté du voile, qui ont donné tout ce qui leur a été demandé pour édifier le royaume de Dieu sur la terre. Je suis reconnaissant d'avoir été entouré toute ma vie de gens qui aiment le Sauveur. Mon cœur déborde de reconnaissance pour ma famille. Ma femme Marie est la joie de ma vie. Sa force spirituelle, son exemple de droiture, son sens de l'humour et son soutien plein d'amour m'ont béni toute ma vie. Nos 3 enfants et leurs conjoints sont une source de grande satisfaction personnelle et, avec nos 9 petits-enfants, sont une grande bénédiction pour nous. Leur foi, leurs prières et la bonté de leur vie sont un grand réconfort pour Marie et moi. Quand je repense à ma jeunesse, à Logan, en Utah, dans la fameuse Cash Valley dont Frère Perry parle tant, je me rends compte de la chance que j'ai eue d'être élevé dans un bon foyer, d'avoir eu une mère juste qui était pleine de foi et un père aimant, un frère aîné qui a été un exemple extraordinaire pour moi, ainsi qu'un ami et un conseiller, et une sœur cadette qui a été aimante et encourageante. Comme j'ai eu de la chance d'avoir des dirigeants et des instructeurs de l'Église, des entraîneurs et des amis qui ont été de merveilleux exemples pour moi. Quand j'étais jeune, j'ai eu la possibilité de faire une mission dans les îles Britanniques qui a été un événement fructueux et décisif dans ma vie. L'influence d'un président de mission vaillant est l'un des grands miracles de l'Évangile rétabli. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une carte d'anniversaire au siège de l'Église d'une femme que j'ai aidée à enseigner l'Évangile à Gloucester, en Angleterre, il y a de nombreuses années. J'avais perdu contact avec elle. Elle m'a appris que son mari et elle sont tous deux des membres très actifs, qu'ils ont 6 enfants et 20 petits-enfants, tous nés dans l'Alliance. C'est peut-être la plus belle carte d'anniversaire que j'ai jamais reçue. Marie et moi avons quitté l'Utah pour faire notre droit à Palo Alto, en Californie. Nous projetions de revenir en Utah après avoir obtenu notre diplôme, mais l'Esprit nous a dit de rester en Californie. Nous avons vécu 33 ans en Californie et nous y avons élevé nos enfants. Nous avons eu l'un et l'autre de nombreuses occasions de servir. Nous aimions la diversité des membres et leur engagement vis-à-vis de l'Évangile de Jésus-Christ. Je serai éternellement reconnaissant aux merveilleux saints des derniers jours de Californie qui ont une influence si bénéfique sur ma vie. Les près de 12 dernières années de service comme 70 ont été réellement enrichissantes. En quittant le collège, je tiens à ce que mes frères sachent que je les aime et les apprécie pour leur dévouement et leur loyauté au royaume de Dieu sur la terre, pour leur fidélité et leurs bonnes œuvres. Je tiens à ce qu'ils sachent quelle joie cela a été de servir avec eux. J'aime de tout mon cœur les frères que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. Je me suis efforcé de servir honorablement et d'alléger leurs responsabilités autant que je l'ai pu. Je suis reconnaissant à la première présidence et au collège des 12 pour leur vie, de bien et leur exemple, leur patience, leurs enseignements, leur gentillesse, leur dévouement à notre Père Céleste et à son Fils Jésus-Christ et à son Évangile rétabli. Je suis reconnaissant que Dieu ait appelé Joseph Smith à être un prophète, par l'intermédiaire de qui l'Évangile a été rétabli sur la terre. Mon expérience d'autorité générale a rempli mon cœur de reconnaissance pour la foi et la bonté des saints des derniers jours du monde entier. Nous avons servi pendant 2 ans aux Philippines. En avril 1961, le président Hinckley, alors membre du Collège des 12, a envoyé les premiers missionnaires à Manille. Il n'y avait alors qu'un détenteur de la prêtrise philippin dans le pays. Aujourd'hui, il y a près de 600 000 membres. Leur vie n'est pas facile et ils manquent de biens matériels, mais ils aiment le Sauveur. L'Évangile a un immense impact bénéfique sur leur vie. Quelle bénédiction de servir parmi eux. Nous avons aussi servi pendant 3 ans en Océanie. Il est significatif que près de 25% de tous les Polynésiens du monde sont membres de l'Église. Leur foi et leur spiritualité sont légendaires. Sœur Cook et moi avons été une fois à Vavaou dans les îles Tonga. Je venais de faire un discours pour suivre le prophète à la session générale de la conférence de Pieux. Lors du déjeuner qui suivait la conférence, j'étais assis à côté d'un patriarche âgé et distingué. Il a indiqué combien il était reconnaissant d'entendre ce que le prophète enseignait. Il m'a raconté ce qui suit. Vavaou, qui est une île relativement petite, reçoit généralement suffisamment de pluie, mais de temps en temps, il y a de graves sécheresses. L'île a de longues criques ou houbets, presque des bras de mer qui s'enfoncent dans l'île au-dessous de collines abruptes. Quand la sécheresse privait le village d'eau, il n'y avait qu'un moyen de se procurer de l'eau douce et de rester en vie. Au cours des siècles, les habitants avaient découvert que de l'eau douce s'infiltrait dans les formations rocheuses à l'intérieur des montagnes et ressurgissaient à quelques endroits dans la mer. Les Tongiens prenaient la mer dans leurs petites embarcations, avec un ancien plein de sagesse placé à un bout du bateau qui recherchait le bon endroit. Les jeunes hommes forts de l'embarcation se tenaient prêts avec des récipients à plonger dans la mer. Quand ils atteignaient l'endroit, l'homme sage levait les deux bras au ciel. C'était le signal. Les jeunes hommes forts plongeaient aussi profond qu'ils le pouvaient et remplissaient les récipients d'eau douce à la source. Ce vieux patriarche comparait cette tradition qui leur sauvait la vie aux eaux vives de l'évangile de Jésus-Christ et l'homme sage au prophète de Dieu ici-bas. Il a précisé que l'eau était pure, douce, et dans la sécheresse où ils se trouvaient, leur apportait la vie. Mais elle n'était pas facile à trouver. Elle n'était pas visible pour un œil non exercé. Le patriarche voulait savoir tout ce que le prophète enseignait. Nous vivons dans des temps précaires. Le monde a désespérément besoin de l'eau, de source douce, qu'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous devrions écouter soigneusement le prophète quand nous faisons des choix. Mes notes personnelles indiquent que le président Hinckley a continuellement souligné la foi au Seigneur Jésus-Christ. Il a mis ensuite l'accent sur le renforcement de la famille et l'observance de pratiques religieuses au foyer. À maintes reprises, il nous a dit que si nous vivions un principe, nous obtiendrions le témoignage de sa véracité, ce qui augmenterait alors notre foi. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent comment élever leurs enfants en ces temps difficiles et comment faire grandir leur foi. Quand ma femme et moi étions jeunes parents dans la région de la baie de San Francisco, nous avions la même préoccupation. À un moment difficile, Harold Billy, alors membre des 12, nous a dit que nous pourrions élever nos enfants dans la droiture si nous 1. Suivions le prophète. 2. Créions sillons dans notre cœur et dans notre foyer. 3. Étions une lumière pour les gens parmi lesquels nous vivions. Et 4. Nous concentrions sur les ordonnances et les principes enseignés au temple. Nous avons suivi ce conseil et notre foi a grandi et nos craintes ont diminué. Je crois que nous pouvons élever nos enfants de manière à ce qu'ils soient justes partout dans le monde si nous leur enseignons des principes religieux au foyer. L'un des domaines dans lesquels les membres peuvent vivre par la foi et non dans la crainte est l'œuvre missionnaire. Avant mon appel à la présidence des 70, le 1er août de cette année, j'avais servi au département missionnaire pendant 6 ans. Les 3 dernières années, comme directeur exécutif, sous la supervision de M. Russell Ballard, qui était président du Conseil exécutif missionnaire. Des présidents de mission nous ont informé que beaucoup d'excellents membres se dissimulent à leurs voisins et à leurs collègues de travail et ne leur disent pas qui ils sont, ni ce à quoi ils croient. Les membres doivent s'impliquer bien davantage dans la proclamation du message du rétablissement. Le verset 14 du chapitre 10 de Romains éclaire ce point. Comment donc invoqueront-ils celui, en parlant du Sauveur, en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Le verset 15 contient le merveilleux message qu'on trouve dans Ésaïe. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prêchent l'évangile de paix et annoncent de bonnes nouvelles. On a fait remarquer que les membres vont devoir bouger les pieds et faire entendre leur voix s'ils veulent que cette bénédiction s'accomplisse. Prêcher mon évangile, guide du service missionnaire, a été présenté en octobre 2004. Le président Hinckley a initié cet effort quand il a appelé les missionnaires à apprendre la doctrine et à enseigner les principes par l'esprit. Chaque membre de la première présidence et du collège des 12 a participé à la rédaction de l'ouvrage à un degré ou à un autre. Frère Ballard et moi avons eu le sentiment que les écluses des cieux s'ouvraient, que l'inspiration du Seigneur se déversait pour produire cette remarquable documentation. Plus de 1,5 million d'exemplaires de prêcher mon évangile ont été achetés par les membres de l'Église. Il constitue une fondation extraordinaire. Et les missionnaires sont des instructeurs puissants et spirituels. Cependant, pour que nous accomplissions ce que le président Hinckley a demandé, il faut que les membres, vivant par la foi et non dans la crainte, fassent connaître l'Évangile à leurs amis et à leurs connaissances. Dans nos appels personnels, nous devons avoir la foi et ne pas craindre. Notre fille Catherine est présidente de la primaire de sa paroisse à Salt Lake City. Ma femme et moi sommes allés dans sa paroisse dimanche dernier pour assister à la réunion de Sainte-Seine de la primaire. Je le suivrai avec foi. J'ai été ravi d'entendre les enfants réciter des écritures et des histoires avec des chants centrés sur la foi au Christ. Après la réunion, je lui ai demandé ce qu'elle pensait de son appel. Elle m'a dit qu'au début, l'appel lui pesait. Beaucoup de temps se passait à parler de problèmes. Puis, la présidence a décidé de souligner l'amour, la foi et la prière. Soudain, les dirigeantes ont reçu des impressions spirituelles sur tel ou tel enfant ou telle famille. Les frictions ont fait place à l'amour. Ma fille m'a raconté que les dirigeantes ont suivi les incitations de l'esprit et que la primaire a été empreinte de révérence et de paix, et qu'il y avait un véritable enseignement, apprentissage de l'Évangile. C'est notre foi en Jésus-Christ qui nous soutient en croisée des chemins de la vie. C'est le premier principe de l'Évangile. Sans la foi, nous patinons à l'intersection, nous gâchons notre temps précieux sans avancer. C'est le Christ qui lance l'invitation de le suivre, de lui donner notre fardeau et de prendre sur nous son joug, car son joug est aisé et son fardeau léger. Il n'est pas d'autre nom donné sous le ciel par lequel l'homme puisse être sauvé. Nous devons prendre sur nous son nom et son image doit se graver sur notre visage afin qu'à son retour, nous soyons plus semblables à lui. Quand nous choisissons de suivre le Christ au lieu de choisir un autre chemin par crainte, nous sommes bénis en conséquence de notre choix. Puissions-nous tous être conscients et reconnaissants du don incomparable de la vie, dont nous jouissons tous, et du souffle qu'il nous accorde chaque jour. Puissions-nous choisir d'avoir le courage aux croisées de chemin de la vie et d'exercer la foi en Jésus-Christ au lieu d'agir dans la crainte. C'est là ma prière. Que nous vivions par la foi et non dans la crainte. Je rends témoignage de Dieu, qui est notre Père éternel, et de son Fils Jésus-Christ, qui a expié pour nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, amen.
En septembre 23,
le 23 septembre 1995, la première présidence et le Collège des douze apôtres ont présenté à l'Église et au monde un document intitulé « La famille déclaration au monde ». J'en cite un paragraphe. « Le mari et la femme ont la responsabilité solennelle de s'aimer et de se chérir et d'aimer et de chérir leurs enfants. Nous vivons à une époque où ce conseil est véritablement très important. Beaucoup de parents soutiennent qu'ils n'ont pas de temps pour leurs enfants. Le rythme effréné de la vie moderne et les quantités excessives de travail empêchent les parents de prêter attention à ce qu'il y a de plus important, donner du temps, donner de soi-même à ses enfants. Le Seigneur enseignait que l'homme a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa famille. Cela demande beaucoup de travail, mais cela ne signifie pas seulement de remplir la maison de nourriture et d'autres choses nécessaires ou désirées. Nous devons aussi avoir le temps d'instruire nos enfants. Que devons-nous enseigner? Notre Père nous a enseigné que les parents ont l'obligation d'enseigner l'Évangile à leurs enfants. Le prophète Léhi a bien compris cette responsabilité d'instruire ses enfants. Néphi a déclaré qu'il avait été instruit dans toute la science de son Père. Le Seigneur nous a indiqué comment prendre soin de nos enfants en nous disant par l'intermédiaire de ses prophètes dans la Déclaration au monde. Les parents ont le devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture, de subvenir à leurs besoins physiques et spirituels, de leur apprendre à s'aimer, à se servir les uns les autres, à observer les commandements de Dieu et à être des citoyens respectueux des lois où qu'ils vivent. Nous savons que depuis des siècles, Dieu nous a demandé de protéger nos enfants et d'en prendre soin. Nous savons aussi, et nous pouvons voir, que l'adversaire s'attaque à la famille. C'est maintenant qu'il faut utiliser tous ces enseignements. C'est maintenant qu'il faut remplir le devoir que Dieu nous a confié concernant la famille. James E. Faust nous a donné trois choses clés à faire pour protéger et fortifier nos enfants. Premièrement, la prière en famille. Les parents doivent enseigner à leurs enfants qu'ils sont les enfants de Dieu et qu'ils doivent donc le prier quotidiennement. Deuxièmement, la soirée familiale. Comme le président Faust nous l'a enseigné, la soirée familiale est pour nous tous, quelle que soit la période de notre vie. Le lundi soir, nous ne devons faire aucune activité qui pourrait nous empêcher de nous réunir en famille. Troisièmement, l'étude personnelle et familiale des Écritures. Nous devons aider nos enfants à fortifier leur foi et leur témoignage par cette habitude fondamentale. En suivant les conseils sages du président Faust, nous protégerons les membres de la famille contre les attaques de Satan et nous fortifierons leur témoignage et leur foi au Seigneur Jésus-Christ. Dans la déclaration sur la famille, nous apprenons aussi que, par décret divin, le père doit présider sa famille dans l'amour et la droiture, et a la responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a pour première responsabilité d'élever ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père et la mère ont l'obligation de s'aider en qualité de partenaires égaux. C'est au foyer que la famille apprend et applique les principes de l'Évangile. Il faut beaucoup d'amour pour instruire et guider une famille. Les pères et les mères aimants enseigneront à leurs enfants à adorer Dieu dans leur foyer. Quand une attitude, un esprit de culte imprègne le foyer, cette attitude, cet esprit s'étend à la vie de chacun des membres de la famille. Cela les prépare à faire les sacrifices qui seront nécessaires pour pouvoir retourner en présence de Dieu et demeurer ensemble en famille pour toute l'éternité. La déclaration sur la famille nous aide à bien comprendre l'amour dont parle le Sauveur quand il nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Il nous a donné l'exemple suprême d'amour quand il a déclaré « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Plus tard, il a expié pour tous nos péchés et finalement, il a donné sa vie pour nous tous. Nous pouvons donner notre vie pour nos êtres chers, pas physiquement en mourant pour eux, mais en vivant pour eux, en donnant notre temps, en étant toujours présent pour eux, en les servant, en étant courtois, affectueux et en faisant preuve d'un véritable amour pour les membres de notre famille et pour tous les hommes comme l'a enseigné le Sauveur. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver demain. C'est pourquoi c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à montrer notre amour par de petits gestes comme prendre dans nos bras et dire « Je t'aime » à notre femme, à nos enfants et à nos proches. Récemment, j'ai lu un texte qui disait qu'il est urgent de ne pas remettre au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. En juillet de cette année, le Brésil a connu l'accident d'avion le plus terrible de son histoire. Il y a eu 199 morts, des passagers, du personnel, de la compagnie aérienne, des membres de l'équipage. Il était dit que le texte que je mentionne a été affiché sur le tableau de communication de la compagnie aérienne par le mari de l'une des hôtesses mortes dans l'accident. Il s'intitule « Si demain n'arrive jamais », il est basé sur un poème de Norma Cornett Marek. « Si je savais que c'est la dernière fois que je te regardais dormir, je te serrais plus fort dans mes bras. Je supplierais le Seigneur de te protéger. Si je savais que c'est la dernière fois que je te vois sortir de la maison, je te prendrai dans mes bras et t'embrasserai, je te rappellerai pour te prendre dans mes bras et t'embrasser encore. Si je savais que c'est la dernière fois que je t'entends prier, j'enregistrerai chaque geste, chaque regard, chaque sourire, chacun de tes mots, afin de pouvoir les écouter jour après jour plus tard. Si je savais que c'est la dernière fois, je passerais une ou deux minutes de plus pour te dire « je t'aime » au lieu de supposer que tu le sais déjà. Si je savais que c'est notre dernière fois, notre dernier moment, je serais auprès de toi, passant la journée avec toi, au lieu de penser, je suis sûr qu'il y aura d'autres occasions, je peux laisser passer celle-ci. Il y aura bien sûr un jour pour revoir les choses, et nous aurons une seconde chance de bien faire. Bien sûr, il y aura un autre jour où nous pourrons dire « Je t'aime ». Et nous aurons certainement une autre occasion de nous dire « Puis-je t'aider ?» Mais dans mon cas, il n'y en a plus. Tu n'es pas ici avec moi. Et aujourd'hui est notre dernier jour, le jour de nos adieux. Alors, je voudrais te dire combien je t'aime et j'espère que tu ne l'oublieras jamais. Demain n'est promis à personne, jeune ou vieux. Aujourd'hui est peut-être votre dernière chance de tenir bien serré la main de l'être aimé et d'exprimer tous vos sentiments. Si vous attendez demain, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Parce que si demain ne vient jamais, vous regretterez tout le reste de votre vie de ne pas avoir passé un peu plus de temps pour un sourire, une conversation, une étreinte, un baiser, parce que vous étiez trop occupé pour accorder à cette personne ce qui était finalement sa dernière volonté. Alors prenez dans vos bras aujourd'hui la personne que vous aimez, vos amis et les membres de votre famille, et murmurez-leur à l'oreille que vous les aimez, que vous voulez les avoir près de vous. Prenez le temps de dire « Excuse-moi, s'il te plaît, pardonne-moi, merci » ou même « Ce n'était rien, ce n'est pas grave. » Parce que si demain ne vient jamais, vous n'aurez pas à regretter aujourd'hui. Le passé ne revient pas et l'avenir ne peut pas, peut ne pas venir. Exprimons notre amour à notre conjoint, à nos enfants et à nos frères et sœurs aujourd'hui. Je sais que Dieu vit. Je sais que Jésus est le Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Je sais que Joseph Smith est un prophète du Seigneur et que Gordon B. Hinckley est le prophète actuel de Dieu sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Dans le livre de Mormon, nous lisons l'histoire de 2000 jeunes gens exemplaires qui étaient extrêmement vaillants, courageux et forts. Oui, c'étaient des hommes pleins de vérité et de sérieux, car on leur avait enseigné à garder les commandements de Dieu et à marcher en droiture devant lui. Ces jeunes gens fidèles ont rendu hommage à leur mère. Ils ont dit, « Nos mères le savaient ». Je suppose que les mères du capitaine Moroni, de Mosia, de Mormon et d'autres grands dirigeants le savaient aussi. La responsabilité des mères d'aujourd'hui n'a jamais requis autant de vigilance. Plus qu'à toute autre époque de l'histoire du monde, nous avons besoin de mères qui savent. Les enfants naissent dans un monde où ils n'ont pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais les mères n'ont pas à avoir peur. Quand elles savent qui elles sont, qui est Dieu, et quand elles ont fait des alliances avec lui, elles ont une grande puissance et une grande influence bénéfique sur leurs enfants. Les mères qui savent désirent avoir des enfants. Alors que dans de nombreuses cultures du monde, on attache de moins en moins d'importance aux enfants, dans la culture de l'Évangile, nous croyons toujours qu'il faut avoir des enfants. Les prophètes voyants et révélateurs qui ont été soutenus à cette conférence ont déclaré que le commandement que Dieu a donné à ses enfants de multiplier et de remplir la terre reste en vigueur. Ezra Taft Benson a enseigné que les jeunes couples ne doivent pas repousser la naissance d'enfants et que dans une perspective éternelle, les enfants, et non les biens matériels, ni les postes, ni le prestige, sont nos plus grands joyaux. Les filles de Dieu fidèles désirent avoir des enfants. Dans les Écritures, nous lisons que Ève, Sarah, Rebecca et Marie ont été préordonnées pour être mères avant d'avoir des enfants. À certaines femmes n'est pas donnée la responsabilité d'avoir des enfants dans la condition mortelle. Mais, tout comme Anne de l'Ancien Testament a prié avec ferveur pour avoir son enfant, la valeur que les femmes donnent à la maternité dans cette vie et les qualités de mère qu'elles acquièrent ici se lèveront avec elles dans la résurrection. Les femmes qui désirent cette bénédiction et qui y travaillent ont la promesse de la recevoir pour toute l'éternité. et c'est beaucoup plus long que la condition mortelle. Les mères ont une influence et une puissance éternelle. Les mères qui savent respectent les ordonnances et les alliances sacrées. J'ai assisté à des réunions de Sainte-Seine dans certaines des régions les plus pauvres de la Terre, où des mères mettent avec grand soin leurs habits du dimanche, bien qu'elles aient à faire des kilomètres à pied dans des rues poussiéreuses et à utiliser des transports en commun vétustes. Elles amèrent leurs filles vêtues d'une robe propre et bien repassée, coiffées à la perfection. Leurs fils portent une chemise blanche et une cravate et ont une coupe de cheveux missionnaire. Ces mères savent qu'elles vont à la réunion de Sainte-Seine, où l'on renouvelle des alliances. Ces mères ont fait et respectent les alliances du Temple. Elles savent que si elles ne guident pas leurs enfants vers le Temple, elles ne les guident pas vers les objectifs éternels désirés. Ces mères ont de l'influence et du pouvoir. Les mères qui savent élèvent leurs enfants. C'est leur tâche particulière et leur rôle dans le plan du bonheur. Élever signifie prendre soin et faire grandir. Les mères qui savent créent donc un climat propice à la progression spirituelle et temporelle dans leur foyer. Élever, c'est aussi être maîtresse de maison. C'est cuisiner, laver les vêtements et la vaisselle et garder le foyer bien ordonné. Le foyer est l'endroit où les femmes ont le plus de pouvoir et d'influence. Les saintes des derniers jours doivent donc être les meilleures maîtresses de maison du monde. Travailler avec les enfants aux tâches ménagères donne des occasions d'enseigner et de donner l'exemple de qualité que les enfants doivent s'efforcer d'acquérir. Les mères qui élèvent leurs enfants ont des connaissances, mais toutes les études ne serviront à rien si elles n'ont pas les compétences pour créer un foyer dont l'atmosphère favorisera la progression spirituelle. La progression se déroule au mieux dans une maison d'ordre, et les femmes doivent créer un foyer à l'exemple de la maison du Seigneur. Pour élever des enfants, il faut de l'organisation, de la patience, de l'amour et du travail. Favoriser la progression des enfants en les élevant est véritablement un rôle d'influence accordé aux femmes. Les mères qui savent sont des dirigeantes. En qualité de partenaire égale à leur mari, elles dirigent une organisation importante et éternelle. Ces mères planifient l'avenir de leur organisation. Elles planifient des missions, des mariages au temple et des études. Elles planifient la prière, l'étude des Écritures et la soirée familiale. Les mères qui savent font de leurs enfants de futurs dirigeants et sont le premier exemple de ce qu'est un dirigeant. Elles n'abandonnent pas leur plan pour succomber à la pression sociale et au modèle du monde. Ces mères sages qui savent choisissent leurs activités de manière à conserver leurs forces limitées et à faire porter le plus leur influence là où c'est le plus important. Les mères qui savent sont toujours des enseignantes. Comme elles ne sont pas des gardiennes d'enfants, leur tâche n'est jamais terminée. Un ami très instruit m'a dit qu'il n'avait jamais appris à l'Église quelque chose qu'il n'avait déjà appris chez lui. Ses parents avaient utilisé l'étude des Écritures, la prière, la soirée familiale, les repas et d'autres mamans ensemble pour enseigner. Pensez à la puissance qu'aurait notre force missionnaire si les mères considéraient leur foyer comme un pré-centre de formation missionnaire. Alors, la doctrine de l'Évangile enseignée au centre de formation serait une révision et non une révélation. C'est cela, l'influence. C'est cela, la puissance. Les mères qui savent font moins. Elles permettent moins ce qui ne portera pas de bons fruits éternellement. Elles permettent moins de médias dans leur foyer, moins de distractions, moins d'activités qui éloignent leurs enfants de leur foyer. Les mères qui savent sont disposées à vivre avec moins et à consommer moins des biens du monde pour passer plus de temps avec leurs enfants, plus de temps à manger ensemble, à travailler ensemble, à lire ensemble, à parler, à rire, à chanter et à montrer l'exemple. Ces mères choisissent avec soin et n'essayent pas de tout choisir. Leur objectif est de préparer une génération montante d'enfants qui porteront l'Évangile de Jésus-Christ au monde entier. Leur objectif est de préparer de futurs pères et mères qui édifieront le foyer royaume du Seigneur dans les 50 prochaines années. C'est cela l'influence. C'est cela la puissance. Qui va préparer cette génération de fils et de filles justes? Les saintes des derniers jours, des femmes qui savent, qui aiment le Seigneur et qui témoignent de lui. Nous sommes des femmes qui sont fortes et inébranlables. Nous sommes dirigés par un prophète de Dieu inspiré qui a demandé aux femmes de l'Église d'être fortes et inébranlables dans la défense de ce qui est correct et convenable selon le plan du Seigneur. Il nous a demandé de commencer chez nous à enseigner les voies de la vérité. Les saintes des derniers jours devraient être les meilleures au monde pour ce qui est de défendre, d'élever et de protéger les enfants. Je suis absolument certaine que les femmes de l'Église vont le faire et seront connues comme des femmes qui savaient. Au nom de Jésus-Christ, amen.
This is the 177th semi-annual.
Vous assistez à la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Quiconque vit quotidiennement l'évangile de Jésus-Christ et persévère jusqu'à la fin obtiendra la vie éternelle. C'est la promesse du Seigneur. Les éléments essentiels de l'évangile sont simples, faciles à comprendre et adaptés à la capacité des plus faibles. Alma, prophète du Livre de Mormon, a remarqué à juste titre: Or, il se peut que tu penses que c'est la folie de ma part, mais c'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. Et c'est par de très petits moyens que le Seigneur confond les sages et réalise le salut de nombreuses âmes. Très récemment, j'ai eu la chance d'observer ce processus dans la vie d'un frère du nom de Stan, qui n'avait pas été pratiquant pendant environ 45 ans. Il avait mené une vie juste et avait apporté son soutien à sa femme et à son fils dans leur participation de membres fidèles à l'Église. Mais pour des raisons personnelles, il avait choisi de rester en dehors de la fraternité de l'Église. Néanmoins, chaque mois, il accueillait les instructeurs au foyer. En février 2006, Stan a reçu de nouveaux instructeurs au foyer. Leur première visite a été plutôt agréable, bien que Stan n'ait montré aucun intérêt véritable pour l'Évangile ou pour aucun sujet vaguement associé aux choses spirituelles. La visite suivante n'a pas beaucoup modifié ce qu'ils avaient initialement remarqué, bien que Stan ait été un peu plus chaleureux et amical. Cependant, à leur troisième visite, il y a eu un changement manifeste dans l'apparence et le comportement de Stan. À leur très grande surprise, avant même qu'ils aient pu donner leur message, Stan les a interrompus par plusieurs questions profondes. Dans la discussion qui s'est ensuivie, il leur a aussi raconté ses expériences du mois précédent, pendant lequel sa femme et lui avaient commencé à lire quotidiennement un chapitre du Livre de Mormon. Bruce R. McConkie a décrit avec éloquence le genre de réveil qu'avait connu Stan. Voici un homme qui obtient un exemplaire de ce livre béni, commence à le lire et continue, jusqu'à ce que, l'ayant lu entièrement, son âme affamée soit remplie du pain de vie. Il ne peut le mettre de côté ou ignorer ses enseignements. C'est comme si les eaux de la vie coulaient dans les déserts désolés de son âme, étanchant le sentiment d'aridité et de vide qui le séparait jusqu'alors de Dieu. Le pouvoir remarquable du Livre de Mormon et la très réelle influence de l'Esprit du Seigneur, lorsque nous lisons ces passages, ont été rappelés aux instructeurs au foyer. Ils ont aussi mieux compris la déclaration de Joseph Smith, le prophète, que le Livre de Mormon est le plus correct de tous les livres de la terre, et qu'un homme se rapprocherait davantage de Dieu en suivant les préceptes que par n'importe quel autre livre. La soif de connaissance de Stan et sa redécouverte de l'Évangile rétabli ont bientôt étendu sa lecture au-delà d'un chapitre par jour. Cette lecture s'est accompagnée d'un profond examen de conscience et de prières ferventes. Je dis aux personnes qui se demandent parfois si le Seigneur entend réellement leurs prières que le Seigneur nous a rappelées. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses par le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Notre prophète bien-aimé, Gordon Binkley, a aussi donné ce conseil. Vous ne pourrez pas y réussir seul. Vous avez besoin de l'aide du Seigneur. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez l'occasion de prier avec l'espérance qu'il entendra vos prières et y répondra. Il est prêt à vous aider. En août 2006, Stan s'est risqué aux côtés de sa femme, toujours fidèle, dans une réunion de Sainte-Seine de sa paroisse, pour la première fois en 45 ans. Là, le cœur humble et a donné à la prière, il a écouté les prières simples de Sainte-Seine faites par les jeunes prêtres. Se sentant indigne et comprenant quelque peu la profondeur et la signification de cette ordonnance des plus sacrés, il a profondément et douloureusement réfléchi, sans prendre le pain et l'eau pendant plusieurs semaines. Joseph Feeling Smith, dans un témoignage touchant, a dit il y a de nombreuses années, « À mon avis, la réunion de Sainte-Seine est la plus sacrée, la plus sainte de toutes les réunions de l'Église. Quand je songe à la réunion du Sauveur avec ses apôtres, en cette nuit mémorable où il a instauré la Sainte-Seine, mon cœur est rempli d'émerveillement et je suis touché. Je considère que cette réunion est l'une des choses les plus solennelles et merveilleuses depuis le début des temps. Stan a continué à étudier, à prier, à aller à l'église et à recevoir les conseils et les encouragements appropriés de ses visiteurs au foyer. Puis le jour est arrivé où, joyeusement, il s'est senti prêt à étendre la main pour prendre la précieuse Sainte-Seine. Lorsque nous prenons la Sainte-Seine dignement, avec réflexion et révérence, nous sommes prêts à devenir participants de la nature divine grâce au sacrifice expiatoire du Christ et au pouvoir du Saint-Esprit. Quand il est redevenu pratiquant dans l'Église, Stan a reçu un appel et quelques mois plus tard a été ordonné à l'office d'ancien. En juillet 2007, Stan et sa femme se sont agenouillés de chaque côté de l'autel dans la maison du Seigneur et, par l'autorité et la loi éternelle de Dieu, ont été mariés pour le temps et pour toute l'éternité. Mes frères et sœurs, puissions-nous redécouvrir le pouvoir divin de la prière quotidienne et la force de conviction du Livre de Mormon et des Saintes Écritures. Le dimanche, prenons la Sainte-Seine dans un esprit de réelle dévotion à l'égard du dispensateur de toutes choses. Si nous faisons tous nos efforts, bien qu'ils soient limités, et grâce à la bonté infinie du Seigneur, de grandes choses sont réalisées par des choses petites et simples. Pour finir, j'ajoute mon témoignage et ma conviction à ces choses sacrées. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
I have fond childhood memories.
J'ai de très bons souvenirs de mon enfance quand ma mère me lisait des histoires du livre de Mormon. Elle avait le don de rendre vivant, dans ma jeune imagination, les épisodes scripturaires. Et je ne doutais pas qu'elle avait le témoignage de la vérité de ce livre sacré. Je me rappelle particulièrement de sa description de la visite du Sauveur sur le continent américain après sa résurrection et de ses enseignements aux gens du pays d'abondance. Par la constance simple de son exemple et de son témoignage, ma mère m'a éveillé aux premières flammes de la foi au Sauveur et plus tard en son Église des derniers jours. J'ai su par moi-même que le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ et qui contient la plénitude de son Évangile éternel. Aujourd'hui, je vais examiner avec vous un de mes événements préférés du livre de Mormon, l'apparition du Sauveur au Nouveau Monde, et discuter de son enseignement à la foule sur le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit. Je prie pour que vous et moi soyons guidés par l'Esprit. Au cours des 3 jours du ministère du Sauveur dans le Nouveau Monde, il a enseigné sa doctrine, donné l'autorité à ses disciples d'accomplir des ordonnances de la prêtrise, guéri les malades, prier pour les gens et bénir avec amour les enfants. Comme le séjour du Sauveur auprès des gens touchait à sa fin, il a résumé de manière succincte les principes fondamentaux de son évangile. Il a dit, « Or voici le commandement, repentez-vous toutes les extrémités de la terre et venez à moi, et soyez baptisés en mon nom, afin d'être sanctifiés par la réception du Saint-Esprit, afin de vous tenir sans tache devant moi au dernier jour. » Il est essentiel que nous comprenions et appliquions les principes de base indiqués par le Maître dans ce passage d'Écriture. Le premier est le repentir, à savoir tourner son cœur et sa volonté vers Dieu et délaisser le péché. En recherchant et recevant correctement le don spirituel de la foi au Rédempteur, nous nous tournons vers les mérites, la miséricorde et la grâce du Saint-Messie. Et nous nous en remettons à eux. Le repentir est le doux fruit qui vient de la foi au Sauveur et consiste à se tourner vers Dieu et à se détourner du péché. Le Seigneur ressuscité expliquait ensuite l'importance d'aller à lui. La foule réunie au temple a été invitée à proprement parler, à s'avancer un par un vers le Sauveur pour sentir la marque des clous dans les mains et les pieds du Maître et mettre la main dans son côté. Toutes les personnes qui l'ont fait ont su avec certitude et ont témoigné que c'était lui, Jésus-Christ, qui était venu. Le Sauveur a également enseigné aux gens d'aller à lui par des alliances sacrées et leur a rappelé qu'ils étaient les enfants de l'Alliance. Il a souligné l'importance éternelle des ordonnances du baptême et de la réception du Saint-Esprit. De la même manière, on nous exhorte, vous et moi, à nous tourner vers le Christ, à apprendre de lui et aller à lui par les alliances et les ordonnances de son Évangile rétabli. Si nous le faisons, nous apprendrons à le connaître tôt ou tard, au moment qui lui semble bon, à sa manière et selon sa volonté, comme l'ont fait les gens du pays d'abondance. Se repentir et aller au Christ par les alliances et les ordonnances du salut sont des conditions préalables et une préparation pour être sanctifié par la réception du Saint-Esprit et se tenir sans tache devant Dieu au dernier jour. Je veux à présent que nous nous concentrions sur l'influence sanctificatrice que peut avoir le Saint-Esprit sur nous. La porte du baptême conduit au chemin étroit et resserré, et à se dépouiller de l'homme naturel, et à devenir un saint par le sacrifice expiatoire du Christ Seigneur. Le but de notre existence terrestre n'est pas juste de voir les paysages de la terre, ou de consacrer notre temps à des occupations égoïstes, mais que nous marchions en nouveauté de vie pour être sanctifiés par le don de notre cœur à Dieu et que nous acquérions la pensée de Christ. Il nous est commandé de vivre de manière à ce que notre nature déchue soit changée par le pouvoir sanctificateur du Saint-Esprit. Marian G. Romney a enseigné que le baptême de feu par le Saint-Esprit nous convertit du charnel au spirituel. Il a ajouté, « Il nettoie, guérit et purifie l'âme. » La foi au Seigneur Jésus-Christ, le repentir et le baptême par l'eau sont des préalables, mais le baptême par le feu et le couronnement. Sa réception signifie le lavement de nos vêtements dans le sang expiatoire de Jésus-Christ. Fin de citation. Par conséquent, si nous renaissons et nous efforçons d'avoir son esprit avec nous, le Saint-Esprit sanctifie et raffine notre âme comme par le feu. Un jour, nous nous tiendrons sans tache devant Dieu. L'Évangile de Jésus-Christ englobe bien plus qu'éviter, que surmonter le péché et les mauvaises influences et qu'en être purifié, mais implique aussi essentiellement de faire le bien, d'être bon et de s'améliorer. Nous repentir de nos péchés et rechercher le pardon sont une nécessité spirituelle. Et nous devons toujours le faire. Cependant, la rémission des péchés n'est pas l'unique ni même l'ultime objectif de l'Évangile. Connaître un changement de cœur sous l'effet du Saint-Esprit, de sorte que nous n'avons plus de disposition à faire le mal, mais à faire continuellement le bien, comme le peuple du roi Benjamin, est l'alliance que nous avons accepté de contracter. Ce grand changement n'est pas simplement le résultat de plus d'efforts ni de l'acquisition d'une plus grande discipline personnelle, mais il est la résultante d'un changement fondamental de nos désirs, de nos motivations et de notre nature, rendu possible par le sacrifice expiatoire du Christ, le Seigneur. Notre objectif spirituel est de vaincre le péché et le désir de péché, la contamination et la dictature du péché. Tout au long des siècles, les prophètes ont incité sur la double exigence, un, d'éviter de vaincre le mal, et deux, de faire le bien ou de devenir meilleur. Réfléchissez aux questions pénétrantes du psalmiste. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Mes frères et sœurs, il nous est possible d'avoir les mains propres, mais de ne pas avoir le cœur pur. Veuillez remarquer qu'il faut avoir les mains propres et le cœur pur pour monter la montagne de l'Éternel et s'élever en son lieu saint. Nos mains sont rendues propres si nous nous dépouillons de l'homme naturel et si nous surmontons le mal et les mauvaises influences de notre vie par l'intermédiaire du sacrifice expiatoire du Sauveur. Notre cœur est rendu pur si nous recevons son pouvoir fortifiant pour faire le bien et nous améliorer. Tous nos désirs justes et nos bonnes œuvres, aussi nécessaires qu'elles soient, ne peuvent en aucun cas rendre nos mains propres et notre cœur pur. C'est le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ qui apporte le pouvoir purificateur et rédempteur qui nous aide à surmonter les péchés et le pouvoir sanctificateur et réconfortant qui nous aide à devenir meilleurs que si nous nous appuyions uniquement sur notre propre force. Le sacrifice expiatoire infini est pour le pécheur et le saint qui sont en chacun en nous. Dans le livre de Mormon, nous trouvons les enseignements magistraux du roi Benjamin sur la mission et le sacrifice expiatoire de Jésus-Christ. La doctrine simple qu'il a enseignée a fait que la foule est tombée par terre, car la crainte du Seigneur était venue sur elle, et elle s'était vue dans son état charnel, encore moins que la poussière de la terre. Elle s'était criée d'une seule voix, disant, « Oh, sois miséricordieux, et applique le sang expiatoire du Christ, afin que nous recevions le pardon de nos péchés, et que notre cœur soit purifié. » Car nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui a créé le ciel et la terre, et toutes choses, qui descendra parmi les enfants des hommes. Une fois encore, nous trouvons dans son verset la double bénédiction du pardon du péché, à savoir des mains propres, et celle de la transformation de notre nature, en d'autres mots, un cœur pur. À la fin de son enseignement, le roi Benjamin a répété l'importance de ces deux aspects fondamentaux du développement spirituel. Et maintenant, pour les choses que je vous ai dites, c'est-à-dire pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés, afin de marcher innocent devant Dieu, je voudrais que vous vous accordiez de vos biens aux pauvres. Nous devons avoir le désir sincère d'avoir les mains propres et le cœur pur, de conserver de jour en jour le pardon de nos péchés et marcher innocent devant Dieu. Avoir les mains propres ne suffira pas lorsque nous nous tiendrons devant celui qui est pur et qui, comme un agneau sans défaut et sans tache, a versé volontairement son sang précieux pour nous. Certaines personnes qui entendent ou lisent ce message vont croire que la progression spirituelle que je décris n'est pas à leur portée. Peut-être croyons-nous que ces vérités s'appliquent à d'autres, mais pas à nous. Nous n'atteindrons pas la perfection dans cette vie, mais nous pouvons et devons aller de l'avant avec foi au Christ, sur le chemin étroit et resserré, et faire des progrès constants vers notre destinée éternelle. Le modèle du Seigneur de développement spirituel est ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Le Seigneur attend de nous de petites améliorations spirituelles, régulières et progressives. Se préparer à marcher sans tâche devant Dieu est l'un des principaux objectifs de la condition mortelle et la quête de toute une vie. Cela ne vient pas de vifs sursauts spirituels sporadiques. Je témoigne que le Sauveur nous fortifiera et nous aidera à avoir une progression constante et mesurée. L'exemple dans le livre de Mormon, de beaucoup, un nombre extrêmement grand, de membres de l'Église primitive qui étaient purs et sans tâche devant Dieu, est pour moi une source d'encouragement et de réconfort. J'imagine qu'ils étaient des hommes et des femmes ordinaires, comme vous et moi. Ils ne pouvaient considérer le péché qu'avec aversion, et ils furent rendus purs et entrèrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. Et ces principes et ce processus de progression spirituelle s'appliquent aussi et toujours à chacun de nous. La nécessité de se dépouiller de l'homme naturel, de devenir un saint, d'éviter de surmonter le mal, de faire le bien, de devenir bon, et d'avoir les mains propres et le cœur pur, est un thème récurrent dans le livre de Mormon. En fait, l'invitation finale de Moroni à la fin du livre est le résumé de ce thème. Oui, venez au Christ, et soyez rendus parfaits en lui, et refusez-vous toute impiété. Et si vous vous refusez toute impiété, et aimez Dieu de tout votre pouvoir, de toute votre pensée, de toute votre force, alors sa grâce vous suffit, afin que par sa grâce, vous soyez parfaits dans le Christ. Et en outre, si par la grâce de Dieu, vous êtes parfaits dans le Christ, et ne niez pas son pouvoir, alors vous êtes sanctifiés dans le Christ, par la grâce de Dieu, grâce à l'effusion du sang du Christ, qui est dans l'alliance du Père pour le pardon de vos péchés, afin que vous deveniez saints, sans tâche. Puissions-nous, vous et moi, nous repentir d'un cœur sincère et aller vraiment au Christ. Je prie pour que nous recherchions par le sacrifice expiatoire du Sauveur à avoir les mains propres et le cœur pur, afin que nous devenions saints, sans tache. Je témoigne que Jésus-Christ est le Fils du Père éternel est notre Sauveur. Lui qui est sans tache nous rachète du péché et nous donne la force de faire le bien et de devenir meilleur. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur vient de chanter God so loved the world. Nous remercions le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Après mon discours, Le chœur terminera la session en chantant « Quel fondement ferme !» Ensuite, Wolfgang H. Paul des 70 fera la prière de clôture et la dernière session de cette conférence commencera à 14h cet après-midi. Maintenant, mes chers frères et sœurs, nous vivons avec un phénomène intéressant. Un soliste chante continuellement la même chanson. Un orchestre reprend la même musique. Mais il est attendu d'un orateur qu'il trouve à dire quelque chose de nouveau à chaque fois qu'il prend la parole. J'ai parlé quelques 200 fois en conférence générale. Je vais rompre avec la tradition ce matin et répéter dans une certaine mesure ce que j'ai dit à une autre occasion. L'Église est devenue une grande famille répandue sur toute la terre. Nous sommes aujourd'hui plus de 13 millions dans 173 pays et territoires. Il est en train de se produire quelque chose de merveilleux. Le Seigneur est en train d'accomplir sa promesse que son évangile serait comme la pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main qui roulerait jusqu'à remplir toute la terre, comme Daniel en a eu la vision. Un grand miracle est en train de se produire sous nos yeux. Retournons 184 ans en arrière, en 1823. C'était au mois de septembre, dans la nuit du 21 au 22 septembre, pour être précis. Ce soir-là, le jeune Joseph Smith avait prié avant de s'endormir. Il avait demandé au Seigneur de lui pardonner sa légèreté. Il s'est produit quelque chose de miraculeux, il dit. Tandis que j'étais ainsi occupé à invoquer Dieu, je m'aperçus qu'une lumière apparaissait dans ma chambre. Elle s'accrut jusqu'à ce que la chambre fût plus claire qu'à l'heure du midi. Et tout d'un coup, un personnage m'apparut à mon chevet. Il m'appela par mon nom et me dit qu'il était un messager envoyé de la présence de Dieu et que son nom était Moroni, que Dieu avait une œuvre à me faire accomplir, et que mon nom serait connu en bien et en mal, parmi toutes les nations, familles, langues, ou qu'on en dirait du bien et du mal parmi tous les peuples. Le garçon a dû être stupéfait de ce qu'il entendait. Aux yeux des gens qui le connaissaient, il n'était qu'un petit paysan, pauvre et sans instruction. Il n'était pas riche, ses voisins étaient dans la même situation. Ses parents étaient des paysans qui avaient du mal à gagner leur vie. Ils vivaient dans une région rurale très peu connue. C'étaient des gens ordinaires qui s'efforçaient de survivre en travaillant dur. Et pourtant, un ange de Dieu a dit que le nom de Joseph serait connu en bien et en mal parmi toutes les nations, familles, langues. Comment cela se pouvait-il? Cette déclaration signifie le monde entier. En considérant les 177 ans qui se sont écoulés depuis l'organisation de l'Église, nous nous émerveillons de ce qui s'est déjà passé. Quand l'Église a été organisée en 1830, elle ne comptait que 6 membres, qu'une poignée de croyants qui habitaient dans un village inconnu de presque tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes la 4e ou 5e plus grande église d'Amérique du Nord et nous avons des unités dans presque toutes les villes importantes. Aujourd'hui, des pieux de Sion s'épanouissent dans chaque État des États-Unis, dans chaque province du Canada, dans chaque État du Mexique, dans chaque pays d'Amérique centrale et dans toute l'Amérique du Sud. On trouve des unités dans toutes les îles britanniques et dans toute l'Europe où des milliers de personnes se sont jointes à l'Église au cours des années. L'œuvre s'est étendue aux pays baltes et jusqu'à la Bulgarie, l'Albanie et d'autres régions de cette partie du monde. Elle s'étend à toute la Russie. Elle atteint la Mongolie et tous les pays d'Asie et les îles du Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'Inde et l'Indonésie. Elle est florissante dans de nombreux pays d'Afrique. Nos conférences générales sont diffusées par satellite et par d'autres moyens dans 92 langues différentes. Et ce n'est que le commencement. L'œuvre continuera de croître, de prospérer et de se répandre sur la terre. Elle doit le faire pour que la promesse que Morani a faite à Joseph soit tenue. Cette œuvre est unique et merveilleuse. Elle est fondamentalement différente de toute autre doctrine religieuse que je connaisse. Lorsqu'il était sur la terre, Jésus a dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » À 14 ans, Joseph a eu, au cours de cette glorieuse première vision, une expérience différente de toute autre expérience humaine dont on ait trace. À notre connaissance, à aucun autre moment, Dieu, notre Père éternel, et son Fils bien-aimé, le Seigneur ressuscité, ne sont apparus sur terre ensemble. Au moment du baptême de Jésus par Jean dans le Jourdain, la voix de Dieu s'est fait entendre, mais on ne l'a pas vue. Sur la montagne de la Transfiguration, la voix de Dieu s'est fait de nouveau entendre, mais il n'est pas indiqué qu'il soit apparu. Étienne a vu le Seigneur à la droite de Dieu, mais ils ne lui ont pas parlé, ni ne l'ont instruit. Après sa résurrection, Jésus apparut aux Néphites sur le continent américain. La voix du Tout-Puissant se fit entendre trois fois, présentant le Christ ressuscité. Mais il n'y eut pas d'apparition du Père. Cette vision de 1820 que Joseph eut quand il pria dans les bois et au cours de laquelle le Père et le Fils lui apparurent tous les deux est véritablement remarquable. L'un d'eux lui parla, l'appelant par mon nom, et dit, en lui montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Rien de tel ne s'était jamais produit auparavant. On est amené à se demander pourquoi il était si important que le Père et le Fils apparaissent. Je pense que c'est parce qu'ils ouvraient la dispensation de la plénitude des temps, la dernière dispensation de l'Évangile, au cours de laquelle les éléments de toutes les dispensations précédentes seraient rassemblés. Cela devait être le dernier chapitre de la longue chronique des rapports de Dieu avec les hommes et les femmes sur la terre. Après la mort du Sauveur, l'Église qu'il avait fondée est tombée dans l'apostasie. C'était l'accomplissement des paroles d'Ésaïe qui avait dit « La terre a été profanée par ses habitants, car ils enfreignent les lois, altèrent les prescriptions, rompent l'alliance éternelle. » Se rendant compte qu'il est important de connaître la véritable nature de Dieu, des hommes s'efforcèrent de trouver un moyen de le définir. Des clercs instruits se disputaient. Quand Constantin devint chrétien au IVe siècle, il convoqua une grande assemblée de ses érudits, et ce, dans l'espoir qu'il parviendrait à une conclusion concernant la véritable nature de la divinité. Ils ne parvinrent qu'à un compromis entre divers points de vue. Le résultat fut le credo de Nicée de 325 de notre ère. Ce credo et les suivants sont devenus depuis la déclaration doctrinale de la nature de la divinité pour la plus grande partie de la chrétienté. Je les ai lus de nombreuses fois. Je ne les comprends pas. Je pense que d'autres n'arrivent pas à les comprendre non plus. Je suis sûr que le Seigneur savait aussi que beaucoup ne les comprendraient pas. Aussi, en 1820, dans cette vision incomparable, le Père et le Fils sont apparus au jeune Joseph. Ils lui ont parlé en paroles audibles, et il leur a parlé. Ils pouvaient voir, ils pouvaient parler, ils pouvaient entendre. C'était des personnes, ils étaient tangibles. Ils n'étaient pas des êtres imaginaires. C'était des êtres dans un corps de chair. Et cette expérience a donné lieu à notre compréhension unique et vraie de la nature de la divinité. Il n'est pas étonnant que quand il écrit les articles de foi en 1842, Joseph Smith ait rédigé comme premier d'entre eux « Nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit ». Comme vous le savez tous fort bien, au cours des années, il y a eu ensuite, au cours des années, une véritable nuée de témoins, pour reprendre la description prophétique de Paul. Il y eut d'abord Moroni, avec les plaques, d'où fut traduit le livre de Mormon. Ce fut quelque chose d'extraordinaire, de remarquable. L'histoire des plaques d'or que racontait Joseph Smith était fantastique. Elle était difficile à croire et facile à attaquer. Se pouvait-il qu'il ait écrit le livre lui-même? Il est là, et tout le monde peut le voir, le toucher, le lire. Toutes les tentatives d'explication de son origine, autres que celles qu'il a données, ont échoué. Il était très peu allé à l'école. Pourtant, en très peu de temps, il a produit la traduction qui, publiée, couvre plus de 500 pages. Paul déclara que toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Pendant des siècles, la Bible avait été seule. C'est un livre précieux et merveilleux. À présent, il y a un deuxième témoin qui déclare la divinité du Christ. À ma connaissance, le livre de Mormon est le seul livre jamais publié qui comporte la promesse que celui qui le lit en prière et en posant des questions à son sujet, il obtiendra par révélation du pouvoir du Saint-Esprit la connaissance qu'il est vrai. Depuis sa première publication dans l'imprimerie de Palmyra, village de l'État de New York, plus de 133 millions d'exemplaires ont été produits. Il a été traduit dans 105 langues. Il n'y a pas longtemps, il a été désigné comme l'un des 25 livres les plus influents publiés en Amérique du Nord. Une première édition s'est vendue récemment à 105 000 dollars. Mais l'édition la plus économique à couverture souple a la même valeur pour le lecteur qui aime son langage et son message. Tout au long des années, des détracteurs ont essayé d'en donner une explication. Ils l'ont critiqué. Ils se sont moqués de lui, mais il leur a tous survécu. Et aujourd'hui, son influence est plus grande que jamais. Ensuite, il y a eu le rétablissement de la prêtrise, conféré par deux êtres ressuscités qui la détenaient quand le Sauveur était sur la terre.
Cela s'est produit en 1829, alors que Joseph n'avait que 23 ans. Après la réception de la prêtrise, l'Église a été organisée le 6 avril 1830, quand Joseph était un jeune homme qui n'avait pas encore 25 ans. Je le répète, l'organisation est unique et différente de celle de la chrétienté traditionnelle. Elle opère largement au moyen d'un clergé laïque. Le bénévolat est ce qui fait son génie. Au fur et à mesure de sa croissance et de son expansion à l'étranger, des milliers et des milliers d'hommes fidèles et capables ont dirigé ses efforts. Aujourd'hui, je suis émerveillé par les choses magnifiques que Dieu a révélées au prophète qu'il a nommé, tandis qu'il était encore jeune et presque totalement inconnu. Le langage même de ces révélations dépasse les capacités d'un homme même de grande connaissance. Des érudits qui ne sont pas de notre foi, qui n'acceptent pas les enseignements qui nous sont propres, sont perplexes devant l'expansion de cette œuvre qui touche les cœurs sur toute la terre. Nous devons tout cela à Joseph, le prophète, le voyant et le révélateur, l'apôtre du Seigneur Jésus-Christ, qui a été préordonné pour venir au monde en cette génération et être un instrument dans les mains du Tout-Puissant pour établir sur la terre ce que le Sauveur a enseigné de son vivant en Palestine. Je vous exprime à tous aujourd'hui mon témoignage personnel de l'appel du prophète Joseph, de son œuvre, et qu'il a scellé son témoignage de son sang en martyr de la vérité éternelle. Vous pouvez témoigner de la même chose. Vous et moi sommes confrontés à la même question d'accepter la véracité de la première question et ce qui l'a suivi. Sur la question de sa réalité repose la validité même de cette Église. Si c'est la vérité, et je témoigne que ce l'est, alors l'œuvre dans laquelle nous sommes engagés est la plus importante de la terre. Je vous témoigne de la véracité de ce dont je viens de parler, et je demande au ciel de vous bénir, mes chers frères et sœurs. Puissent les écluses des cieux s'ouvrir et les bénédictions se déverser sur vous comme le Seigneur l'a promis. N'oubliez jamais que c'est sa promesse et qu'il a le pouvoir et la capacité de veiller à ce qu'elle soit tenue. C'est là ma prière. Je vous exprime mon amour et vous bénis au nom sacré de notre Rédempteur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Our foundation, we say, is on the Lord, is faithful. Our beloved Heavenly Father,
notre Père Céleste bien-aimé, à la fin de cette session historique de la conférence générale, nous t'exprimons humblement notre gratitude d'avoir ressenti ton esprit alors que nous avons écouté la musique merveilleuse et que nous avons été enseignés et reçu des conseils de tes serviteurs. Nous prions, Père, que nous ayons le désir et la détermination d'appliquer les principes qui ont été enseignés à nos vies personnelles. Nous te remercions de la connaissance que nous avons, que nous sommes tes fils et tes filles. Nous sommes si reconnaissants de ton amour et du soutien continuel que tu nous donnes. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour ton Fils bien-aimé, notre Rédempteur, Jésus-Christ, de son sacrifice expiatoire pour nous. Nous sommes reconnaissants pour le prophète Joseph Smith et pour le rétablissement de l'Évangile en ces derniers jours, pour le prophète vivant que nous avons aujourd'hui, le président Gordon B. Hinckley, pour ses nobles conseillers, le président Monson et le président Herring, le Collège des douze apôtres, que nous soutenons comme prophètes, voyants et révélateurs. Nous prions pour eux, pour leur famille. Nous prions que ton œuvre glorieuse remplisse la terre et que tous ceux qui ont le désir d'entendre la parole puissent l'entendre. Nous te rendons grâce, Père, de toutes tes bénédictions, au nom de Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the
Vous venez d'assister à la 177e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission, sans autorisation écrite, est interdite.